Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, la route système sanguin de la République. Bonjour Mathieu Flonneau.
Bonjour Hervé Garrett.
Vous êtes historien, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des mobilités et de l'automobilisme. Vous avez publié en 2016 aux éditions de l'Aube « Vive la route, vive la République ». Je citerai également une autre de vos publications, elles sont nombreuses, « L'automobile au temps des Trente Glorieuses » aux éditions Loubatière. Alors c'est l'étincelle qui a tout déclenché, 80 km/h sur les routes secondaires, une mesure de sécurité routière qui a fini par mettre à jour le niveau d'insécurité sociale. La façon d'imposer cette mesure, uniformément et par le haut, a été perçue comme le symbole d'un pouvoir déconnecté des réalités locales. Quelques semaines plus tard, les premiers gilets jaunes apparaissaient sur les ronds-points. La route est un sujet sensible politiquement. Pas seulement parce que notre civilisation est celle de l'automobile. Le réseau routier, un bon million de kilomètres en France, est un témoignage de l'organisation territoriale et un héritage de la construction républicaine du pays. La route relie la population. Y toucher, c'est prendre le risque de perturber l'ordre social. Pour autant, les enjeux environnementaux obligent à repenser sa place et son usage. Le temps des grands projets autoroutiers, des contournements d'agglomération est-il toujours pertinent ? C'est un des enjeux de la loi d'orientation des mobilités qui sera bientôt débattue au Parlement. Alors la route système sanguin de la République, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie. Mathieu Flonneau, je voudrais qu'on démarre avec les gilets jaunes qui depuis plusieurs semaines donc occupent les ronds-points. Est-ce que vous avez été surpris, vous, de voir ces gilets jaunes occuper et se servir de ces lieux comme point de rassemblement politique, ces ronds-points qu'on dit si laids en général et si nombreux?
Oui, alors là, la France a effectivement un record dans le nombre de ronds-points. Il y a une visibilité considérable, mais peut-être pour rectifier l'étincelle que vous avez signalée tout à l'heure, c'est moins le 80 km/h que la hausse du gasoil. On est là dans une politique publique énergétique qui renchérit évidemment la mobilité et qui rend délicate, on l'a bien compris, et c'est l'objet de la revendication, eh bien les équilibres des ménages. Les ronds-points que vous citez, et c'est une nouveauté de la revendication sociale en France, l'a été notée par beaucoup, ont été occupés par des femmes. Par des femmes seules, parfois issues de la monoparentalité, malheureusement, qui se trouvent démunies. Et on le sait aussi, ces femmes tiennent en général les cordons de la bourse. Et donc il y a des nécessités là qui sont des nécessités économiques et on touche finalement à un bien de première nécessité.
Mais sur le fait que ce soit ces lieux en particulier qui aient été choisis comme lieu de rassemblement?
Ben, c'est une forme d'agora moderne. Personnellement, j'avais été surpris aux États-Unis, découvrant le pays, que les intersections, alors il y a beaucoup moins de ronds-points, et le rond-point est quand même une spécificité un peu française, mais les intersections servent à la manifestation politique, dans le sens où les panneaux pour les campagnes électorales américaines, mais comme vous le savez, la démocratie touche aussi les sièges de juges, les sièges de conseillers, eh bien les panneaux déjà sont sur les ronds-points. Et donc, il y a une forme politique de l'usage de la route, au sens où c'est un lieu de passage qui permet la discussion. Et bon, les États-Unis sont un pays où l'abstention est importante, mais il y a une manifestation politique sur la route.
Et c'est aussi un lieu où s'exerce la politique, notamment sur les questions de sécurité routière. Lundi dernier, justement, le Premier ministre a annoncé une baisse historique de la mortalité.
Les résultats que nous sommes en mesure de produire pour l'année 2018 sont sans aucune ambiguïté. Ce sont des résultats historique. Le mot est parfois utilisé pas forcément à propos, mais en l'occurrence c'est vrai, ce sont des chiffres historiques. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes françaises. C'est l'année 2018 où l'on aura compté le moins de morts sur les routes françaises, métropole et outre-mer compris. En 2018, les chiffres sont les suivants. 3259 personnes ont perdu la vie sur les routes de la France métropolitaine. C'est beaucoup, 3259. Mais c'est 189 morts de moins qu'en 2017.
Voilà, Édouard Philippe, lundi dernier, alors ce sont des chiffres qu'il faut relativiser parce qu'ils sont issus notamment de projections. On aura les chiffres définitifs d'ici quelques semaines, mais c'était pas tellement là-dessus que je voulais vous interroger, Mathieu Flonneau, mais plutôt pour savoir si aujourd'hui, on ne pouvait pas considérer que la politique de la route en France, c'est d'abord une politique de sécurité routière.
Oui, alors c'est une politique contre l'insécurité routière. Et là, l'objectivation du fait, qui était évidemment dramatique au début des années 1970, avant que ne naisse cette délégation interministérielle à la sécurité routière, avec, quand même, faut-il le rappeler, entre 16 et 18 000 morts par an, c'est le pic statistique qui avait été atteint, c'est-à-dire plus que la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas rien. Il y avait eu des démonstrations publiques, une opération, un happening télévisuel à Mazamet, où tout le monde s'était couché sur la chaussée pour montrer qu'une ville moyenne eh bien, disparaissait chaque année. Il y a un insupportable dans le cheminement d'une histoire des représentations et des sensibilités. Il y a un insupportable qui aujourd'hui, effectivement, alors la conjonction de la crise des Gilets jaunes est intéressante, mais il y a un processus de civilisation de la route, des conduites. Désormais, la justice frappe les délinquants routiers au même titre que d'autres actes de délinquance. Donc il y a un caractère insupportable qui est reconnu. La crise contemporaine est quand même une exception dans ce processus de civilisation. Même si les chiffres sont bons, on peut s'attendre à des effets rebonds plus négatifs parce que malheureusement, le poujadisme routier là était tel et des digues civiques ont cédé, des radars ont été détruits. Or la politique des radars avait fait une politique de rupture dans les statistiques bien avant, à partir de 2002, lorsque le président Chirac avait instauré avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, eh bien à l'époque, le contrôle sanction automatique. Là, vous aviez une rupture, tout comme il y avait une rupture au début de la politique de sécurité routière, avec la trilogie, l'alcool, la vitesse et la ceinture de sécurité. Et puis en 1991, autre mesure qui avait été largement décriée, mais qui était finalement, et qui est entrée dans les mœurs, le permis à points.
Alors justement, ce processus de civilisation, il part de politiques qui sont des politiques très volontaristes. Est-ce que on pourrait dire que la route, elle est aussi un élément important quand on exerce le pouvoir, parce que c'est justement un endroit où on peut faire vraiment de la politique, c'est-à-dire prendre des décisions qui sont visibles, qui touchent directement les citoyens et que l'on peut mesurer, dont on peut mesurer l'efficacité.
Oui, vous avez raison, et c'est plutôt une politique réussie que la politique de sécurité routière, avec évidemment des marges encore d'amélioration, et la vitesse est un champ d'amélioration, mais pas que. C'est un peu ce que reprochent ceux qui se sentent ici victimes de mesures qu'ils appellent liberticides. Je dirais quand même, pour revenir aussi aux gilets jaunes, que mes collègues historiens modernistes y voient pour certains une insurrection de type ancien régime, avec l'argument fiscal derrière. Mais il est évident que derrière le mythe de l'automobile, que je connais un peu, il y a cette idée persistante d'une liberté permanente. C'est un mythe. L'automobile a toujours été gouvernée, et dans la longue durée. C'est-à-dire qu'il faut déconstruire l'ordre routier, il faut déconstruire les politiques de mobilité, et il faut déconstruire l'image de l'automobile, qui a toujours cet espace de rêve devant elle, mais qui est en réalité une somme de contraintes.
Elle a toujours été gouvernée, dites-vous, Mathieu Flonneau. Peut-être que ce qui pose problème, c'est l'endroit d'où cette politique est gouvernée. Je reviens quand même à cette question des 90 km/h, qui a été décidée donc sur l'essentiel du réseau secondaire, de manière assez uniforme. Qu'est-ce que ça dit, peut-être, justement, de la façon de faire de la politique? Et est-ce que l'idée de laisser aux conseils départementaux peut-être la possibilité d'ajuster justement ces différentes vitesses en fonction de la dangerosité des routes, est-ce que ça n'est pas une sage décision?
C'est très probablement l'issue vers laquelle les amodiations de la loi là vont nous orienter. Je prendrai un parallèle historique récent, l'écotaxe. L'écotaxe a été refusée violemment, avec même chose, des destructions, des oppositions, un mouvement coloré, les bonnets rouges en Bretagne. Mais l'écotaxe, dans certains territoires, était demandée. L'Alsace demande l'écotaxe pour le trafic des poids lourds qui ne sont pas nécessairement français. Donc il y a là, effectivement, un ajustement, peut-être régional, qui serait une entorse, finalement, à cet ordre républicain routier, qui est quelque chose de très normatif, de national, et on peut le comprendre, il y a là le besoin d'un discours univoque. Mais on peut quand même réfléchir à quelques exceptions, dans la mesure où ces exceptions demeurent des exceptions à la règle.
C'est très national. En même temps, ça n'est pas l'État qui gère l'ensemble du réseau routier. Je disais, il y a un peu plus, je crois, 1 million de kilomètres de routes. L'essentiel, c'est quoi? Ce sont des routes qu'on appelle toujours communal, je sais pas d'ailleurs si
c'est départemental, il y a aussi
départemental, communal, national.
Oui oui, un déclassement de certaines routes. La nationale 7 en est un exemple majeur, c'est une route mythique. Il y avait eu au mondial de l'exposition de l'automobile pardon, une exposition spéciale dédiée aux routes mythiques et la nationale 7 est justement
chantée par Charles Trenet.
Bien sûr, et avec toute une mythologie et c'est là aussi une dimension de l'écosystème routier qu'il faut avoir en tête parce que c'est aussi culturel la question. C'est aussi sociologique, patrimonial, mais pas patrimonial au sens historique, antique. C'est une ressource patrimoniale. C'est le premier patrimoine qu'il s'agit d'entretenir et qui est très coûteux aujourd'hui. C'est tout l'enjeu. Donc on ne pourra pas entretenir très probablement toutes les dessertes telles qu'elles ont été créées avec cette capillarité exceptionnelle du réseau français qui en a été longtemps une caractéristique, y compris à l'échelle mondiale. Ce qui a repoussé, on y viendra peut-être, mais la question de l'autoroute, c'est-à-dire qu'on bénéficiait d'un réseau tellement dense, réputé de telle qualité, réputé aussi entretenu par un corps d'exception qui est le corps des ponts et chaussées, qui est un corps qui remonte à la royauté, dont la République hérite, dont effectivement aujourd'hui, eh bien, certaines compétences tendent plutôt à disparaître parce que la route n'est plus à la mode, ou n'était plus à la mode. Et ce à quoi l'on assiste, c'est finalement un road is back. Parce que elle est là dans le débat politique, mais elle est là aussi au chapitre des innovations. Et la route n'est pas morte en termes de solutions de mobilité. Au contraire. Et là, il y a une ironie de l'histoire puissante que je voudrais vous faire toucher du doigt parce que Emmanuel Macron, donc président, devenu président, est confronté à un problème routier. Mais il faut savoir aussi qu'une partie de sa popularité est venue des cars Macron, qui était une déréglementation, une libéralisation de ces liaisons interurbaines routières par autocar, qui avait été réglementé, alors, bon, on va simplifier, par la loi de coordination des transports de 1934, qui était une loi de malthusianisme en termes de mobilité, parce que c'était une loi qui laissait les monopoles, notamment les monopoles ferroviaires, qui étaient à l'époque de compagnies privées, eh bien, qui leur laissait la possibilité d'exploiter quasiment sans concurrence, eh bien, les liaisons. Et ce qui freinait l'automobile de ce point de vue-là, ou le camionnage. Eh bien, il est assez intéressant qu'Emmanuel Macron, justement, après avoir construit aussi son image de réformateur sur les autocars, eh bien, se trouve là confronté à un effet de réel, qui est l'effet de réel de la hausse du gasoil, et donc de ses problèmes routiers.
Il y a une vraie ironie, en effet, Mathieu Flonneau. Vous évoquiez l'histoire de la densité du réseau routier français, qui avait peut-être retardé justement l'arrivée des autoroutes. Alors, on va y arriver justement au réseau autoroutier, mais pour rester un petit peu dans l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que la France s'est dotée d'un réseau de routes secondaires aussi dense? Est-ce que c'est lié, par exemple, aussi à son organisation territoriale? C'est-à-dire énormément de communes, donc il fallait bien relier entre elles.
Oui, bien évidemment. Chacun voulait sa petite route de plus ou moins belle qualité. On est là, effectivement, dans l'éclatement de la gouvernance et dans l'éclatement territorial, mais on est là aussi sur la création de richesses, parce que chacune de ces routes, toutes les routes vont vers les hommes, dit Saint-Exupéry. Et évidemment, cette route, c'est un lien humain. C'est, j'ai tendance à le dire avec un peu de provocation parfois, appliqué à l'automobilisme. L'automobilisme est non seulement un universalisme, c'est-à-dire qu'on peut toucher tous les territoires, mais c'est aussi un humanisme. Parce qu'il y a un conducteur, il y a éventuellement des passagers, et puis il y a des lieux de desserte. Donc réduire l'automobile à ses nuisances, c'est une grave erreur, puisque ce n'est pas que cela, la problématique de l'automobile.
Donc quand on titre aujourd'hui notre émission « La route, système sanguin de la République ».
Le titre est superbe.
Alors dans un système sanguin, vous savez qu'il y a des petites veines, et puis évidemment il y a les grandes artères et les grosses veines. Ça c'est ce qui pourrait être les autoroutes qui sont des projets pharaoniques peut-être dans certains cas. Si, écoutez, vous allez voir cet exemple.
Il y a plusieurs mois, j'ai eu la formidable chance de tomber sur un plan du conseil de la ville. Un projet de construction aux proportions épiques. Il s'appelle ça, autoroute.
Autoroute? C'est quoi, autoroute?
8 fois d'asphalte miroitante conduisant jusqu'à Pasadena. Rapide, sûr et fluide. De quoi faire des embouteillages et de choses du passé.
Alors c'est pour ça que vous avez tué Acme et Maroun? Pour cette autoroute? Je comprends pas.
Bien sûr que non, vous n'êtes pas visionnaire. Mais moi, je vois un endroit où les gens pourront aller et venir depuis l'autoroute. Aller et venir, venir et aller toute la journée et toute la nuit. Bientôt, là où toute ville s'élevait autrefois, on verra une rangée de stations d'essence. Quelques motels bon marché, des restaurants qui servent rapidement des plats tout prêts, des stands d'exposition. Automobile, des rechanges de pneus et de magnifiques, magnifiques panneaux d'affichage pouvant être vus jusqu'à la ligne d'horizon. Mon Dieu, ça va être merveilleux.
Voilà, extrait du film « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?» de Robert Zemeckis. Bon, c'est un exemple qui est pris dans la fiction. Non, mais ce qu'on trouvait intéressant en choisissant cet extrait, Mathieu Flonneau, c'est qu'alors il y a le côté quasi démiurgique, autour de l'autoroute, de ces grandes infrastructures qui pourraient presque se suffire à elles-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on entend dans l'extrait, on est sur l'autoroute et presque on pourrait ne plus en sortir parce que toute la vie est là. Est-ce que c'est ce qui a pu aussi présider à un certain nombre de grands projets autoroutiers en France?
Je ne vois pas cette hubris technologique véritablement à l'œuvre dans les premiers projets autoroutiers. Ils sont lents à venir, je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que précisément en France, par rapport à l'Italie ou à l'Allemagne, ou aux États-Unis d'Amérique, il y a ce réseau qui préexiste, ce réseau très dense, ce réseau unique. Et donc on n'en voit pas la nécessité. Et on pointe dès cette époque-là, dès les années 30, lorsque le débat vraiment est porté sur la place publique, et lorsque le premier décret pour une autoroute est signé en 1935 à l'ouest de Paris, celle-ci sera achevée matériellement en 1938, et puis la guerre retarde l'inauguration véritablement officielle. Bon, c'est après la Seconde Guerre mondiale que cela commence vraiment. Mais là où ça commence vraiment, c'est avec la loi sur la concession autoroutière de 1955. Et donc là, on introduit le secteur privé. Alors Roger Rabbit...
Oui, mais on est justement dans les grandes heures de la politique industrielle française.
Mais il faut se resituer dans ce chapitre de l'histoire qu'est les Trente Glorieuses, qui n'a pas à être vu de façon honteuse. Vous êtes là devant un projet de civilisation et de développement, une aspiration au progrès très large, très inclusive également. Et c'est la période à laquelle la civilisation de l'automobile évolue radicalement, puisque l'on passe d'une civilisation pour happy few à l'automobile pour tous. Et ce rêve-là, il est partagé par les secteurs productifs et les forces productives de la société. Le spectre politique, il est très large. L'automobile n'est pas de gauche, l'automobile n'est pas de droite. On est là dans un consensus sur un bien de consommation dont l'usage est certes différencié. Et c'est un marqueur très particulier, puisque c'est un signe statutaire. Mais sa diffusion dit quelque chose des aspirations à la richesse et à la mobilité.
Sauf que cet idéal républicain de l'automobile pour tous à travers le réseau autoroutier, il a quand même été un peu entamé. L'essentiel du réseau autoroutier aujourd'hui, il a été concédé à des sociétés privées qui font payer des péages. Est-ce que ça n'est pas une rupture dans ce « Vive la route, vive la République » qui est le titre de votre essai que j'évoquais en début d'émission?
J'ai tendance à dire que ce n'est pas « Vive l'autoroute, vive la République », c'est « Vive la route ». Toutefois, je me garderais bien d'avoir cette image caricaturale d'un secteur privé qui ne serait là que comme un vautour pour exploiter la rente. Le secteur privé, là aussi, investit beaucoup. Le secteur privé réfléchit aux usages nouveaux de la route, au covoiturage.
Oui, mais si la route et l'autoroute sont censés assurer le lien et l'égalité finalement des territoires, cette égalité, elle n'est pas à la portée de tous, puisqu'il faut payer pour y accéder.
Mais alors, si vous voulez, c'est un réseau qui est particulièrement entretenu. Je ne me ferai pas du tout l'avocat du diable, mais j'apporte là un argument qui justifie justement le péage par les usagers et non pas par l'impôt qui s'appliquerait à tous, mais ce sont les usagers qui sont frappés par les augmentations évidemment qui peuvent être discutées, discutables. Mais entre contrepartie, vous avez assuré par les concessionnaires cette obligation de modernisation, cette obligation de sécurité. Les autoroutes sont le lieu le plus sécur sur le réseau routier français. Vous êtes là devant aussi l'accoutumance à de nouvelles façons de voir la route plus résiliente en termes écologiques, avec des revêtements particuliers, avec des mesures et l'accompagnement autoroutier pour réduire l'impact environnemental de telles infrastructures qui peuvent paraître effectivement violentes dans le paysage est réel. Vous avez des accompagnements écologiques, des millions qui ont été investis pour préserver les crapauducs, par exemple. C'est une politique.
Le fait est qu'il y a un rapport d'audit qui a été rendu en juillet dernier sur l'état du réseau routier et qui va plutôt dans votre sens, Mathieu Flonneau, puisqu'il faisait le constat que le réseau autoroutier était plutôt en bon état, ce qui n'était pas le cas des routes nationales gérées par l'État. 17% des 11 000 km de routes nationales gérées par l'État gravement endommagé. Oui. Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous disiez peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire que on aurait peut-être tendance à moins s'intéresser à la route au niveau politique?
Mais c'est évident que c'est quelque chose, un patrimoine inassumable dans l'ordre actuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas soutenable. Et le rapport que vous évoquez tout à l'heure est tombé, si j'ose dire, en même temps que le viaduc de Gênes. Et naturellement, là, l'Europe, mais pas que l'Europe, les États-Unis d'Amérique aussi, sont confrontés à l'obsolescence de ces constructions de béton qu'on croyait immuables, mais qui en réalité sont très friables.
Vous dites que ça n'est pas assumable, ça n'est pas assumable budgétairement ou ça n'est pas assumable politiquement parce que peut-être que ça n'est pas politiquement politiquement correct aujourd'hui de dire, bah voilà, on va avoir une politique de la route qui ne sera pas seulement une politique de sécurité routière, mais qui va être aussi une politique où on va peut-être choisir, je ne sais pas, de fermer certaines routes et d'en construire d'autres.
Oui, mais tout simplement une politique où on va déjà parler de la route. Et vous avez évoqué la loi d'orientation sur les mobilités. Les premières réunions, je les ai observées, j'y ai même participé parfois, les premières réunions évacuaient le sujet routier. Moi, j'ai parlé dans un bouquin écrit en 2014, La défense et illustration d'un automobilisme républicain, je parlais du tabou routier. Il y avait une forme de tabou routier suite aux deux Grenelles de l'environnement qui ont débouché sur du wishful thinking en termes d'aspirations écologiques qui sont tout simplement inatteignables. Et par rapport à l'insoutenabilité du réseau routier tel qu'il peut exister aujourd'hui, j'avais souligné, avec d'autres évidemment, des économistes bien plus qualifiés que moi pour le qualifier, justement, ces économistes disaient que, de toute façon, la politique du tout transport en commun n'est pas non plus possible, puisque on ne mettra pas des tramways partout, on ne mettra pas du réseau ferré partout. Et donc, il y aurait là à bien peser des équilibres, par exemple, Grand Paris Express, vis-à-vis de politiques routières de renforcement de l'existant. Il y a là des équilibres à chercher et une solution politique à faire émerger. Et la loi d'orientation sur les mobilités routières a subi une inflexion que moi je vois être celle de l'effet de réel des pratiques des concitoyens.
Voilà, c'est une loi qui a été présentée il y a quelques temps au Conseil des ministres et qui sera débattue normalement à partir du mois de mars au Parlement. Dans votre livre, Mathieu Flonneau, je n'ai pas précisé d'ailleurs que vous l'aviez co-signé avec Jean-Pierre Orfeuille, Vive la route, vive la République, vous dites notamment que les routes, pendant la période révolutionnaire, alors là on monte à la Révolution française, ont assuré les moyens d'une forme d'isonomie territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que aujourd'hui cette isonomie est toujours assurée ?
Ben c'est tout l'enjeu. L'isonomie, c'est-à-dire l'égalité devant des besoins, devant les lois, etc. On la retrouve par la route comme effectivement étant la moyennisation du territoire. Alors aujourd'hui, cela passe par d'autres réseaux, des réseaux qu'on qualifie de sociaux, mais enfin le premier réseau social reste quand même le réseau matériel de la route. Ça peut passer par la desserte internet, la connectivité, etc. Il y a quand même, pour le dernier kilomètre de ces fameuses livraisons, besoin d'une route. Et donc, de ce point de vue-là, l'abandon de certains territoires, l'abandon de l'entretien que l'on vient d'évoquer, eh bien, est problématique pour l'égalité territoriale.
Est-ce que toutes les routes, est-ce que toutes les infrastructures routières, Mathieu Flonneau, sont nécessaires? On sait par exemple que, vous évoquez le transport ferroviaire, on sait qu'il y a certaines collectivités qui ont fait des pieds et des mains pour obtenir leur gare TGV. Est-ce qu'il n'y a pas la même chose bien pour sûr obtenir soit son tronçon d'autoroute, soit son contournement de l'agglomération?
Oui, Strasbourg est très concerné en ce moment par ce dossier-là. Vous avez également en balance eh bien, des revendications écologiques qui font que tout grand projet désormais est par essence, contesté. On ne pourra pas financer tous les barreaux autoroutiers, mais le réseau français est de ce point de vue-là maillé d'une façon satisfaisante.
Alors on était justement à Strasbourg en début de semaine avec France Culture et notamment cette question du contournement ouest de la ville a été évoquée dans les matins de Guillaume Herner. C'est un sujet qui est assez polémique et combattu par des associations. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Et à propos de ces grands projets routiers, vous avez interrogé un des membres du collectif des Plumes dans le Goudron.
Oui, il s'appelle Julien Milanesi, donc il travaille depuis des années sur ce que les militants écologistes appellent les grands projets inutiles et imposés, parmi lesquels de nombreux projets donc routiers et autoroutiers. On peut citer, vous en parliez un instant, le contournement ouest de Strasbourg ou, autre exemple, l'agrandissement de la liaison Castres-Toulouse. Pour les opposants à ces projets, le réseau autoroutier français actuel est déjà suffisant pour aujourd'hui et pour les années à venir. On écoute Julien Milanesi.
Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la mobilité en voiture, notamment, a beaucoup moins augmenté que ce qui était prévu. Si on regarde les prévisions de la fin des années 90, par exemple, le transport a trois fois moins augmenté en voiture, a trois fois moins augmenté que ce qu'il était prévu. Et on construit encore des autoroutes aujourd'hui dans l'idée que cette mobilité va augmenter. Et les contestations qui sont faites de ces projets sont beaucoup autour justement de ces prévisions de trafic. C'est-à-dire finalement des visions du futur qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un futur dans lequel il y aura plus de voitures, plus de trafic routier ou moins de voitures? Et puis, a évidemment derrière aussi la question du développement économique. On construit encore ces projets autoroutiers, la très forte justification, c'est l'idée du désenclavement, du développement économique. Or, on observe que notamment depuis plusieurs décennies, ces projets-là n'apportent pas de développement économique dans les zones qui traversent. Au contraire, elles viennent plutôt polariser les activités économiques sur les grands centres urbains qu'elles desservent, donc en venant plutôt vider les territoires intérieurs. Et donc, c'est une des raisons aussi, ces raisons d'aménagement du territoire pour lesquelles ces projets sont fortement contestés.
Alors, si ces projets sont contestés, quelles alternatives proposent les militants écologistes? Comment penser ces questions de mobilité, notamment en zone rurale où la voiture reste indispensable? On l'écoute.
La question ne se pose pas de la même manière en zone rurale et sur les zones périurbaines, par exemple. Je pense qu'on peut faire encore beaucoup d'efforts de développement de transports collectifs sur toutes les zones périurbaines du pays. Les transports collectifs ne sont pas développés à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Donc oui, il faut développer de la multimodalité là-dessus, qui passe par le train, qui peut passer par le bus selon les endroits. Et évidemment qu'ensuite, il y a des endroits à la campagne où on ne peut pas se passer de voiture. Donc là, il faut réfléchir différemment à l'usage de la voiture. Mais on a encore beaucoup de marge sur le développement des transports collectifs, notamment des transports collectifs du quotidien. Et c'est pas en développant de nouvelles autoroutes, notamment à proximité des grandes villes comme l'autoroute Castres-Toulouse par exemple, qui est en projet actuellement, qu'on va résoudre ces problèmes climatiques et ces problèmes de congestion routière, notamment qu'on trouve dans les grandes villes. Donc plutôt que de mettre de l'argent sur ces grands projets routiers, on ferait mieux de les mettre dans le développement de transports collectifs de proximité.
Voilà, c'était l'économiste Julien Milanesi, membre du collectif de chercheurs Des Plumes dans le Goudron, un collectif qui a publié l'an dernier un ouvrage « Résister aux grands projets inutiles et imposés aux éditions textuelles ».
Une réaction, Mathieu Flonneau?
Tous les arguments sont exacts, simplement il faut vraiment les localiser. Et là, il y a une part de pensée magique qui se laisse entendre derrière des transports collectifs partout. Ces transports collectifs partout, ils ont un prix. La mobilité a un prix. Il faut que la route paye son prix, pas nécessairement qu'elle paye excessivement.
Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, en tout cas, est-ce que vous qui aimez l'automobile, ça s'entend aussi dans cette discussion, pas tendance à confondre remise en cause de la place de l'automobile et remise en cause de la place de la route? On peut maintenir un réseau routier sans forcément laisser autant de place aux automobiles.
Alors, oui, mais je laisserai de côté véritablement ma connaissance de l'automobile qui est caractérisée par un amour, comme vous le dites. Toutefois, je dirais que la route, c'est autre chose, c'est une infrastructure, elle est résiliente, elle peut porter différentes mobilités. Je fais beaucoup de vélo, c'est la route. La voiture peut être partagée, la voiture peut être collective, et beaucoup de solutions qui sont évoquées, à juste titre, par cet économiste décroissant, je ne sais comment le caractériser, eh bien passent par la route tout de même. Donc, il faut réfléchir les usages. Moi, je suis un historien de l'automobilisme, pas de l'automobile, un historien de la pratique. Et cette pratique, elle est plurielle.
Est-ce qu'on pourrait réfléchir d'ailleurs en termes d'usage autre que celui de la mobilité, c'est-à-dire faire de la route des lieux qui soient, je reviens un petit peu finalement au début de notre discussion, des lieux de rendez-vous comme les ronds-points aujourd'hui?
Oui, absolument. Et là, les militants de nombreuses associations ne cessent de réinventer les places de parking pour... Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des réflexions qui ont cours là sur les parcs de stationnement souterrains, comment en faire des lieux de vie. Pourquoi pas? Bien sûr.
La France est plutôt bien dotée, ce sera ma dernière question aujourd'hui, en termes d'infrastructures routières. Bon, on a vu qu'alors que s'agissant de leur entretien, il y a des choses à dire. Mais sur le maillage territorial par la route.
Mais bien sûr. Mais c'est ce qui crée aussi cette dépendance. Mais cette dépendance est aussi, et c'est toute ma... réflexion sur les Trente Glorieuses. Cette dépendance a été souhaitée. Cette dépendance a été un désir puissant des populations.
Sauf qu'on est sorti des Trente Glorieuses.
On est sorti de cette croissance économique, mais attendez, on en bénéficie à la façon d'enfant blasé. C'est-à-dire que on veut bien ce niveau de service, mais on n'est pas prêt à le payer. Ce qui est légèrement une différence par rapport à une situation qui voudrait dire que l'on pourrait s'en passer facilement. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pratiquer là l'indignation sélective écologiste. Il faut aussi faire progresser le progressiste de ce point de vue-là. Et réfléchir vraiment à quel niveau de ville on veut parvenir ou se maintenir.
Faisons progresser le progressisme, eh bien, ce sera le mot de la fin, si vous le voulez bien, Mathieu Flonneau. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Je renvoie donc à votre Vive la route, vive la République, Essai impertinent, ça c'était le sous-titre, ouvrage que vous avez publié aux éditions de l'Aube. Et puis l'autre livre que j'évoquais en début d'émission, L'automobile au temps des Trente Glorieuses, aux éditions Loubatière. Voilà, Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son Élise Le, émission que vous pourrez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Je vous retrouve lundi à 18h20 pour Du Grain à Moudre. À 12h45, ce sera la suite dans les idées avec Sylvain Bourbeau. Et dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.